Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée dont voici les titres. Les agriculteurs des 5 villages du territoire de Rutshuru ont bénéficié cette semaine d'une assistance en intrants agricoles. Cette assistance a été distribuée par l'organisation locale Dynamique Paysanne Féminine avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. L'objectif de cette assistance est d'accroître la production alimentaire des familles pour arriver à l'autonomie des ménages dans cette zone. Le ministère de l'économie nationale ainsi que le PNUD comptent améliorer le pouvoir d'achat du Congolais. Pour ce faire, les deux parties viennent de lancer les travaux d'élaboration d'un document de politique et de stratégie sectorielle. L'invité de ce journal, c'est le coordonnateur du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO. Monseigneur François Mwarabu Ngalema réagit au rapport publié du Centre des recherches en finances publiques et développement local CREFDEL qui révèle un détournement présumé de plus de 100 millions de dollars américains destinés à indemniser les victimes de la guerre de Kisangani. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ce journal part du Nord Kivu, où les agriculteurs des 5 villages du territoire de Rutshuru ont bénéficié cette semaine d'une assistance en intrants agricoles. Sont concernées les localités de Rubare, Kako, Kalingera, Rumangabo et Kabaya. Cette assistance a été distribuée par l'organisation locale Dynamique Paysanne Féminine avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Amélioration et l'Agriculture, FAO. Cette aide est composée d'outils essentiels dont des houes, brouettes, râteaux, réservoir d'eau et arrosoir ainsi que des semences de légumes de qualité. L'objectif de cette assistance est d'accroître la production alimentaire des familles pour arriver à l'autonomie des ménages dans cette zone. Plus de détails avec vous, Jean Gandou Kabongo.
Au total, 8000 ménages, parmi lesquels des retournés, ont bénéficié de cette assistance. C'est dans le cadre du projet Soutien d'urgence à la production alimentaire rapide de l'organisation Dynamique Paysanne Féminine, grâce à l'appui de la FAO dans les zones de santé de Rutshuru et Rwanguba. Cette aide réjouit particulièrement les familles récemment retournées dans ces zones, qui peuvent ainsi relancer leurs activités, comme en témoignent ici quelques-uns de ses bénéficiaires.
Nous sommes très contents. Cette assistance est arrivée au bon moment pendant que nous sommes en train de cultiver nos champs. Moi aussi, j'ai dit merci pour cette aide. Je voudrais qu'ils nous aident aussi avec un peu de cash. Comme ça, nous pouvons nous procurer un peu d'huile pour préparer les légumes que nous allons récolter.
De nombreux ménages retournés qui tentent de reconstruire leur quotidien après plus de 2 années passées en déplacement sont confrontés à une grave carence alimentaire. Ces familles qui aspirent à reprendre une vie normale lancent un appel pour plus d'assistance pour qu'ils arrivent à se prendre en charge et à ne plus dépendre de l'aide humanitaire.
Pendant ces temps en Ituri, la présence des rebelles des ADF et d'autres groupes armés empêche les paysans d'accéder à leurs champs dans la chefferie de Babila-Bakwanza en territoire de Mambasa. Conséquence, les produits agricoles se raréfient, les prix grimpent et la population s'enfonce dans la pauvreté. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Les paysans de la chefferie de Babila-Bakwanza vivent dans la peur. Beaucoup redoutent de se rendre dans leurs champs à cause de la sécurité, explique Rams Malkidogo, responsable territorial de l'ONG CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme. Résultat, plusieurs denrées alimentaires se font rares et les prix flambent sur les marchés. Rams Malkidogo en cite quelques exemples.
Par exemple, les régimes de bananes qui se négocient à 5 000 francs, 10 000 francs, actuellement c'est 25 000 et 30 000. Et bah, c'est plastique de concept de manioc qui se négocie à 10 000 francs, actuellement c'est 25 000 et 30 000. Une mesurette de haricots, actuellement, c'est à 1500 francs qui se négocie. À 7 safras, 5 safras, actuellement, c'est à 1500, 2000. Une mesurette de riz, à 1500, 2000. Ça coûtait 7 safras, 5 safras, tout au plus 1000 francs. Mais actuellement, le prix semble être doublé.
À cette insécurité s'ajoute la présence d'une dizaine de groupes armés dits Wazalendo. Ils ont érigé des barrières sur différents axes routiers, obligeant les habitants à payer jusqu'à 2000 francs congolais pour accéder à leur champ. D'autres villageois, eux, sont contraints à des taxes hebdomadaires. Une situation qui appauvrit davantage la population et alimente la criminalité. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
En plus bref, le chef d'état-major général adjoint des FARDC, chargé des opérations et renseignements, séjourne à Kisangani depuis jeudi dans la soirée. Le général Jacques Ishalingonza Ndourou effectue une mission d'inspection et de commandement dans l'espace 3e zone de défense. Son agenda prévoit notamment des réunions de service avec les officiers militaires ainsi que les visites des centres d'instruction de Lukusa et de Baouma. Je le disais en titre, le ministère de l'économie nationale ainsi que le PNUD comptent améliorer le pouvoir d'achat du Congolais. Pour ce faire, les deux parties viennent de lancer les travaux d'élaboration d'un document de politique et de stratégie sectorielle. Daniel Mokoko explique les motivations de cette démarche dans un extrait sélectionné par Blaise Makasi Nandes.
Ces engagements, le chef de l'État n'arrête pas de les rappeler. Mais comment les réaliser sans politique claire? Parce que pour que ces engagements ne soient pas de simples slogans, il faut des résultats. Et on n'obtient pas des résultats tangibles sans boussole. Et les politiques sectorielles, l'exercice dans lequel nous sommes engagés, en plus du fait d'être un préalable pour le basculement vers le budget programme, ces politiques sectorielles sont indispensables pour nous permettre d'obtenir des résultats rapides et tangibles sur des engagements qui touchent le vécu quotidien des populations congolaises.
C'est aussi un processus de pilotage stratégique qui permettra d'aligner les interventions sur les priorités nationales, de renforcer la régulation des marchés, de promouvoir la concurrence saine et de soutenir surtout la relance de la production intérieure.
Des coupes d'arbres d'eucalyptus récemment plantés pour lutter contre l'érosion sont signalées dans les villages de Mukwija, précisément à Munganzi, dans le groupement Mbinga Sud à Kalehe, dans la province du Sud Kivu. Cet acte commis par des inconnus inquiète les activistes de la société civile en raison de son impact sur l'environnement. Ronéline Tibonera.
Et ce sont le jeune plantule d'une année qui sont ciblés par ceux qu'on qualifie des ennemis de l'environnement. Ces arbres plantés par diverses organisations pour limiter les conséquences liées à l'érosion sont détournés de leur mission. Aux orves spirales, ces jeunes pousses sont coupées pour servir de matériaux de construction, dénonce Benjamin Mungazi, acteur de la société civile.
Ces civiques sont en train d'utiliser ces arbres pour la construction des maisons et d'autres pour la fabrication des lits. La nouvelle société civile demande à la vigilance de la population d'aller chercher pendant la soirée et une fois attrapés ces inciviques, rassurez-vous de savoir l'endroit qu'ils coupent les arbres et informez rapidement aux autorités locales et l'interpeller de répondre à cet acte devant la justice.
Les territoires de Kalehe fait face à des problèmes de déforestation et de dégradation des sols. En 2023, au moins 500 personnes ont perdu la vie lors des inondations survenues à Nyamukubi et Bushushu. Selon les scientifiques, malgré les fortes précipitations, les effets de cette catastrophe auraient pu être atténués grâce à des programmes de reboisement bien structurés. Pour eux, la plantation d'arbres contribue à stabiliser les sols tout en réduisant les risques d'érosion et de glissement des terrains.
Au Nord Kivu voisin, la journée mondiale du pharmacien a été célébrée ce 25 septembre. À Beni, dans la province du Nord Kivu, une quarantaine de pharmaciens professionnels se sont retrouvés pour une réflexion sur leur métier. Ces derniers ont une fois de plus dénoncé la présence des vrais faux pharmaciens dans leur profession qui vendent à la population des médicaments dont ils ne connaissent ni la composition ni la posologie. Ces charlatans, comme ils les ont appelés, mettent en danger la vie des citoyens. L'inspecteur provincial de la santé, le docteur Fiston Sindani, revient ici sur les dangers que posent à la population ces vendeurs de médicaments qui se font passer pour des pharmaciens. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Vous savez, il y a beaucoup de monde qui se permettent d'entrer dans le domaine pharmaceutique, le charlatan, je vais les appeler ainsi, alors que les médicaments, c'est exclusivement pharmacien. Vous ne pouvez pas manipuler les médicaments si vous n'avez pas fait les études de pharmacie. Vous devez être à l'université, vous faites 8 ans et vous allez devenir docteur en pharmacie. Nous sommes en train d'étudier les cas pour mettre fin à ce système, bien sûr avec la géopolitique, mais on essaie de s'efforcer pour que cette histoire prenne fin. Parce que à Goma, on avait déjà commencé, on avait déjà mis fin au moins. Nous sommes maintenant à Beni, on est en train d'étudier les mécanismes pour essayer de mettre fin à ce système, à Beni, à Butembo, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les conséquences énormes, vous savez, les médicaments c'est poison. Vous imaginez, si vous prenez des médicaments en désordre, vous allez avoir des problèmes dans l'organisme. C'est l'arme qui peut facilement tuer, comme les ADF, si je peux le dire ainsi. Ce qui fait qu'on devait faire attention parce que les médicaments, c'est trop sensible. Ce n'est pas comme les marchandises qu'on peut acheter au marché, les haricots, les arachides. Non, ce n'est pas ça.
4 morts et 5 blessés graves, c'est le bilan encore provisoire de l'accident des circulations routières survenu aux environs de 21h d'hier jeudi sur la nationale numéro 1, précisément à la cité de Mbanzangungu, à la montagne appelée Dilombele. Le commandant du commissariat territorial de Mbanzangungu, Jean-Louis Liongo, qui confirme cette information, a fait savoir que tout est parti d'un camion remorque en panne de frein roulant à grande vitesse qui, à sa descente de cette montagne, a percuté 3 autres véhicules et 2 motocyclistes transportant des passagers. La même source indique que les corps des victimes non identifiées jusqu'à présent sont gardés à la morgue de l'hôpital Nsonankulu d'Mbanzangungu. Les habitants pris de colère ont mis le feu aux véhicules poids lourds ayant causé l'accident. Son conducteur qui a pris fuite demeure introuvable. Les habitants du quartier Nyalukemba dans la ville de Bukavu vivent ces derniers temps dans la peur. Cette situation est la conséquence de la recrudescence des cas d'insécurité dans la zone. Les entités particulièrement ciblées par des hommes armés sont Lushozi et Irambo. Obedi Mamvu, acteur de la société civile, revient sur le énième incident survenu ce vendredi matin au cours duquel des bandits ont braqué un commerce sur l'avenue Lushozi près du rond-point Feu Vert. Lors de cette opération, une importante somme d'argent a été emportée par ces hors-la-loi avant que l'un d'eux ne soit maîtrisé par les forces de l'ordre. Obedi Mamvu témoigne au micro de Ronéline Tibonera.
Il s'observe qu'il y a des nouvelles figures qui se sont infiltrées dans notre population ici à Nyalukemba et la population doit dénoncer à temps réel toute personne suspecte qui sera bien sûr considérée comme un infiltré dans notre quartier parce que nous avons tous un rôle à jouer, bien que la majorité revient bien sûr à l'État congolais, mais la population vraiment doit dénoncer à temps réel pour chercher comment trouver une solution par rapport à cette question d'insécurité. Voilà que malheureusement l'aide a été attrapé au niveau du Feu Vert et a été conduit au service de sécurité pour l'audition. Et cela, nous sommes en train vraiment d'appeler qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour dénicher d'autres qui se sont volatilisés dans cette attaque de cet avant-midi ici dans notre quartier.
Toujours au sud Kivu, un présumé voleur a été lynché ce vendredi matin dans le village Bugarula, territoire d'Ijui. La population l'accusait d'avoir volé des cartons de jus dans un kiosque ainsi que des instruments de musique. À Kinshasa, le complexe scolaire Kabinda à l'armée du salut est privé d'eau d'au moins 4 mois suite aux travaux de réhabilitation de la route Kabinda. Les élèves et enseignants de cet établissement scolaire privé d'eau sont obligés d'aller s'approvisionner à quelques mètres de leur établissement scolaire munis de bidons et de seaux d'eau. Une situation qui met à mal l'hygiène et la propreté, surtout des toilettes. C'est un reportage signé Sarah Soumbela-Pélé.
Depuis les débuts de travaux de réhabilitation sur l'avenue Kabinda en mai dernier, tout le quartier Djalo où se situe l'école Kabinda dans la commune de Kinshasa est privé d'eau. Les habitants de ce coin sortent tous les jours vers les lieux de travaux, seul endroit où ils peuvent s'approvisionner en eau via un tuyau de la régie des eaux, témoigne un enseignant du complexe scolaire Kabinda. Richard Diakoubama lance un appel au gouvernement et au chef de la régie des eaux afin de leur trouver une solution rapide pour éviter qu'une épidémie se développe au sein de son établissement.
Aider l'école, le complexe Kabinda, que cette école soit réhabilitée d'eau, parce que les enfants enfants souffrent. Même nos toilettes, nos travailleurs ont des difficultés pour nettoyer nos toilettes. C'est pour ça que nous lançons un appel. Les responsables de la régie des eaux pour nous approvisionner de l'eau potable dans ces quartiers-ci, Diallo, commune de Kinshasa.
Notons que l'exécution des travaux de réhabilitation de ce tronçon entre les avenues Willery et Titoulé à Lingwala ont été prévus pour une durée de 2 mois, soit de mai à juin.
Actualité internationale.
À Madagascar, les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales ont fait au moins 5 morts jeudi 25 septembre à Antananarivo, selon une source hospitalière. La soirée a été marquée par les pillages des commerces tandis que des barrages ont été érigés par les habitants dans presque tous les quartiers de la capitale. Le premier ministre Christian Tchai a par ailleurs confirmé la mise en place d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin.
L'invité.
Notre invité est le coordonnateur du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao. Monseigneur François Mwarabu Ngalema réagit au rapport publié du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, qui révèle un détournement présumé de plus de 100 millions de dollars américains destinés à indemniser les victimes de la guerre de Kisangani. Monseigneur François Mwarabu s'entretient avec Grâce Amzati Masanzi.
Monseigneur François Mwarabu, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes de la radio Capi.
Le CREFDEL publie son rapport et qualifie votre gestion, la gestion du Frivao, des crimes financiers qui attend aussi réparation. Quelle est votre réaction?
Messieurs les journalistes, d'abord, ça me fait sursauter, puisque nous sommes entrés en possession du rapport de ces centres-là. Nous avons parcouru le rapport et c'est constant de prime abord qu'ils n'ont pas la maîtrise des données relative à la gestion de ces fonds-là. Puisque moi, je crois que pour savoir ce qu'on a fait de ces fonds, il faut entrer dans l'historique, risque de relever les comptes depuis les premiers versements de l'Ouganda 2022 à nos jours. Alors là, vous avez tout est tracé. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit imaginer. Des allégations ne doivent pas partir des rumeurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a deux coordinations qui ont eu à fonctionner. Il y a nous qui avons été à la genèse de Frivao, nommés par ordonnance présidentielle, nous avons commencé le travail, et aussi la coordination après notre suspension, la coordination intérimaire nommée par le ministre Moutamba. Et nous avons été suspendus pendant une année. Et nous sommes comptables seulement de la partie que nous avons eu, la période que nous avons eu à gérer ces fonds-là. À notre avènement, nous avons eu à dégager d'abord les premières victimes que nous avons eu à identifier, à certifier et soumis à l'appréciation du conseil d'administration. C'était un lot de 3160 victimes qui a été approuvé et par le conseil d'administration et par l'autorité de tutelle. On devrait commencer avec ces victimes-là. Et nous devrions le faire, comme l'exige le texte, par voie bancaire. Chaque victime devrait disposer d'un compte bancaire. Tout est tracé au niveau des banques. Toutes les victimes qui ont été indemnisées par nos opérations de notre coordination. Les premiers lots que nous avons à indemniser, ils sont 101 victimes, à raison pratiquement de 78 000 dollars. Donc, c'était un processus. Au moment où nous devrions continuer le processus de certification, voilà, il y a eu ce coup de force-là qui avait occasionné notre suspension. Alors, après notre suspension, pratiquement, si on doit savoir davantage au-delà de ce montant-là, il faut maintenant interroger la coordination qui est entrée en fonction après nous jusqu'aujourd'hui.
Et l'Ouganda, jusqu'aujourd'hui, avait déjà versé combien d'argent?
Il est un fait que l'Ouganda, au jour d'aujourd'hui, a déjà versé 4 ans. Alors, vous faites 65 millions fois 4. Et nous, dans notre actif, au moins de nos opérations, ce que nous avons dépensé par rapport à ces opérations n'ont jamais atteint 1 million. Jamais. Les traces sont là, les traces bancaires sont là.
Et donc, selon vous, la responsabilité revient au ministère de la Justice?
La responsabilité dans le sens que le ministère des Gé qui réceptionne d'abord l'intégralité de la somme, les 65 millions. Et c'est de ce compte-là qu'on reverse la partie qui revient à Frivao pour l'indemnisation des victimes.
Alors, qu'en est-il aujourd'hui du processus d'indemnisation des victimes?
Tout est en veilleuse, puisque après qu'il ait été constaté les tripatouillages, les dérapages au niveau du processus d'indemnisation, les autorités compétentes ont été obligées de diligenter des audits par exemple l'IGF, il y a la LABC, il y a le Senarev qui ont audité la gestion de ces fonds. Après, aujourd'hui, c'est le parquet général prêt à coup de cassation, maintenant, qui est en train de poursuivre, maintenant, au niveau judiciaire, ces enquêtes. Donc, tous les comptes sont, pour le moment, gelés, jusqu'à nouvel ordre.
Qu'est-ce que vous recommandez pour que tout ceci soit tiré au clair et que les victimes bénéficient de tous ces fonds qui leur sont destinés?
Nous voulons seulement rappeler que, dès notre avènement, ça a toujours été notre souci. Que ces fonds-là d'indemnisation n'est pas un fonds de partage. Malheureusement, aujourd'hui, il se constatait qu'ils ont transformé ces fonds d'indemnisation en fonds de partage.
Qui ont transformé...
Les gestionnaires, pratiquement la manière que ces fonds ont été gérés par ceux qui sont venus après nous. Alors, tout ce que nous pouvons demander, parce que nous aussi, quand nous avons été remis en fonction, en service par l'autorité, nous aussi, nous avons exigé cela. Qu'avant que nous ne puissions toucher à ces fonds, nous avons exigé qu'on fasse un état de lieux exhaustif pour savoir d'abord qui ont accédé à ces fonds-là et de quelle manière, en quelle qualité. Pour que les responsabilités soient établies, puisqu'il s'est constaté que beaucoup de fausses victimes ont accédé à ces fonds-là au détriment des vraies victimes.
Monseigneur François Marabou, je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion-là pour fixer l'opinion par rapport à ces processus d'indemnisation des victimes.
C'était notre invité, Monseigneur François Marabou Ngalema, qui s'entretenait avec Grâce Hamzati Massanzi. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal de la mi-journée, coordonnée par Jean Gandou Kabongo et supervisée par Lievin Mwingavubu, mise en onde par Billy Landry Beto. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur toutes nos plateformes numériques et sur notre site internet www.radiocapi.net.